franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Votre chien, c'est un vrai con. Il fait chier tout le monde, toute la nuit à aboyer comme un cinglé.
Je hais les bêtes.
Quand on n'aime pas les bêtes, on vient pas se reposer à la campagne.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Et oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, en tout cas qui essaie, avec Yann Bouillot et Philippe Duclos aujourd'hui à la technique et assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Humbert, oui, qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur, la conférence internationale sur le climat 2012 est terminée, donc après de chaleureuses poignées de main et embrassades médiatisées, eh bien tout le monde s'est séparé dos à dos. Chacun pour soi est retourné dans son pays, en jet privé, en pirogue ou à pied selon ses moyens, avec un tas de problèmes perso à résoudre. Enfin, tout le monde s'est mis d'accord sur le constat. En gros, il est urgent d'attendre, tout en connaissant d'ailleurs l'ampleur du phénomène. Donc la seule chose qui reste au sommet, c'est la température générale du globe qui monte, qui monte, qui monte. Et dans les années à venir, eh bien, d'autres ravageurs coups d'épaule de la nature s'imposeront. Alors, il est vrai que rassembler sous le puissant soleil du Golfe autant de délégués surinformés à quelques jours d'une fin du monde programmée depuis des lustres par nos amis mayas, ça pouvait un peu quand même démotiver les fantassins sauveteurs de la planète. Puisqu'il est écrit qu'un gigantesque vaisseau spatial viendra se poster à la verticale de la colline sacrée d'un très joli village de l'Aude, oui, tout à fait, dans le sud-ouest, pour aspirer tout ce que notre bonne terre possède d'illuminer, de petits vélos dans la tête, de frapper du bulbe, de réjouir bienheureux et d'autres attentistes du 9e jour, et sans doute les faire disparaître dans un autre parallèle galactique façon Spielberg. Après tout, ce n'est rien de plus qu'une nouvelle forme de tourisme de masse apocalyptique, low cost, donc bon marché. Et le bistroquet du coin, les loueurs de gîtes se frottent les mains. Eh oui, est-ce que ça consomme quand même tout ce petit monde-là ? Donc encore une semaine à attendre et tout ira mieux. Et pendant ce temps, à Paris, dans les vitrines des grands magasins, les sacs de luxe ont remplacé les ours en pluche. La part de rêve des enfants s'est envolée avec gros nounours. Bah oui, il paraît qu'il faut draguer le client chinois et le client japonais. C'est ce qu'on se dit, mais à mon avis, on doit se tromper. Les ours en pluche, les lutins des vitrines, ont quitté la capitale et sont remontés vers le cercle polaire pour y mendier un peu de fraîcheur. Encore une des conséquences du réchauffement climatique. Je ne vois que ça comme explication rationnelle. Aujourd'hui, alors, actualité, information, initiative, réponse à vos questions, 50 ans, les 50 ans du printemps silencieux, je vais y revenir. Donc en fait, je vais mettre en marche mon mixeur, oui, mais manuel. Il va en ressortir un journaliste à la Croix, collaborateur à Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino. Bonjour à vous, Fabrice Nicolino.
Bonjour.
Profondeur de pesticides, de viande rouge, d'organisation environnementale, donc un vrai franc-parler comme on aime. Frédéric Denry qui intervient régulièrement dans cette émission, un garçon qui a fait des études d'écologie, une époque où ses parents le regardaient en lui disant « mais fais de vraies études, voilà !» et qui donc poursuit son chemin aussi en tant qu'auteur, comme conférencier également. L'Atlas du réchauffement climatique, j'en parle régulièrement, dont on en est à 4e édition donc aujourd'hui. Quelle France en 2030 ? Alors peut-être une petite réaction, tenez comme ça, j'allais dire à chaud, ça tombe assez bien, sur Doha, avec surtout peut-être quelques lignes que l'on n'a pas forcément bien vues dans les médias.
Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Oui, effectivement, Doha, c'est encore un grand mais ce qui ne sert pas grand-chose, si ce n'est deux choses. Encore une fois, les collectivités locales étaient présentes et les États ont reconnu que c'était aux collectivités locales de faire les choses. Et on voit les collectivités, Ronan Dantec, prendre de plus en plus de poids à l'échelle internationale, ce qui prouve bien qu'il y a, même si les États ne font rien, ce sont bien les collectivités locales qui nous sont les plus proches, qui font les choses. Donc, excite les États, c'est plus la peine d'en parler dans ce genre de conférence. Par contre, il y a quelques lignes intéressantes où, en prévision du prochain, de la prochaine conférence ratée, entre guillemets, de 2013, il y a deux lignes sur les pertes et dommages. C'est-à-dire que des petits pays ont réussi à faire coucher sur le papier, sur le communiqué final, que peut-être il faudrait envisager qu'un jour ces petits pays qui risquent, les petits pays insulaires qui risquent, enfin c'est pas qui risquent, qui vont le plus être soumis au réchauffement climatique, qu'ils puissent porter plainte.
Avec le symbole de Tuvalu, par exemple, que l'on connaît.
Voilà, qui va aller sous les eaux. Eh bien, Tuvalu pourra dire, si je suis sous les eaux maintenant, c'est à cause de vous, pays riches, qui n'avez rien fait pour. Et on peut envisager, en théorie, que ce principe soit un principe juridique. Alors, On en est très très loin évidemment, mais le seul fait que ce soit mis dans le communiqué final prouve que ces petits pays qui n'étaient rien du tout il y a quelques années ont acquis un poids qui leur permet de faire jeu égal, presque égal avec les pays riches. C'est devenu un vrai lobby, le pays de ces petits pays directement menacés, ces pays pauvres qu'on n'entendait pas avant. Et ça, ça me semble être le seul élément vraiment positif de cette affaire-là.
Donc on est obligé d'écouter la voix des petits, enfin, et on verra bien au fur et à mesure 2014 et 2015, quand ça se passera à Paris, quelles seront donc les nouveautés. Dans l'actualité, on va dire que cette semaine, mercredi, Patrick Cohen recevait donc à ce micro le matin, dans le 7h, vers autour de 8h20, Nicolas Hulot, et qui s'est exprimé aussi sur Notre-Dame-des-Landes.
Pour moi, et c'est mon point de vue, je le dis très librement, je pense que ça fait partie des anciens investissement, du temps de la planification, voilà, du temps du commissariat au plan. Mais les contraintes et les paramètres ont changé. Premièrement, les contraintes énergétiques ont changé. Deuxièmement, les contraintes climatiques ont changé. Ce n'est pas des petites contraintes. Troisièmement, les terres agricoles. Moi, je veux quand même rappeler cela. Deviennent en France, entre autres, des terres rares. Nous n'avons pas une souveraineté alimentaire en France. On a besoin de sanctuariser les terres agricoles parce que demain, notre bétail, qui est principalement alimenté par du maïs qui vient sans taxation des États-Unis et du soja OGM au détriment de la forêt amazonienne, il va falloir aussi qu'un jour la France soit autonome sur un plan alimentaire. Donc avant de sacrifier 1700 hectares de terres agricoles, je pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près 700 millions d'euros, voire 1 milliard d'euros sur cet investissement. Il vaut mieux le flécher, me semble-t-il, dans l'efficacité énergétique et dans le développement des énergies renouvelables. C'est mon sentiment, c'est ma conviction et j'espère qu'il est encore temps de revoir la messe.
Voilà, donc on peut être nommé donc par le président de la République ambassadeur de la planète et garder quand même sa liberté de parole en ce qui concerne donc Notre-Dame-des-Landes. Donc il a projet de société avec lequel donc il n'est pas d'accord, une partie de la population aussi également. Fabrice Nicolino, alors on peut prendre ce totem, on va dire, écologique avec de véritables combats, donc on le sait, et épine dans le pied aujourd'hui du gouvernement, pas seulement de Jean-Marc Ayrault, mais aussi de nombreux élus qui sont d'accord avec ce projet, qu'ils soient de droite ou de gauche. Peut-être dans l'actualité, un petit focus.
Oui, enfin écoutez, d'abord je vois saluer au passage les zadistes, hein, ceux qui sont sur le terrain et qui se résistent en fait.
Zadistes parce que zone à défendre, ZAD.
Voilà, ils ont créé un néologisme qui s'appelle à partir de zone d'aménagement différé. Et ils ont créé un néologisme, ZAD. Donc les zadistes, je les salue. Je salue notamment Marie Jarnot. Je lui souhaite bon courage. Et pour le reste, oui, il y a un peu d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision du tribunal de Nantes qui autorise la destruction des cabanes des refusants, enfin des zadistes. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il y a de grandes inquiétudes sur l'intervention, une nouvelle intervention des forces de police sur place. Puis par ailleurs, ce que je voulais dire, parce que je suis membre d'une association bretonne qui s'appelle Bretagne Vivante, qui est une très belle association. Et Bretagne Vivante, je crois savoir que Bretagne Vivante va se lancer dans une affaire qui me touche énormément, c'est-à-dire un inventaire exhaustif de la biodiversité sur place, sur les 1700 hectares de Notre-Dame-des-Landes. Et je trouve ça très très beau, je soutiens toutes mes forces. Je rappelle un dernier point quand même qui est important, c'est qu'il y a des rapports, le dernier il y a 3 semaines des Nations Unies, d'une agence des Nations Unies, sur une sorte d'appel au secours sur la disparition accélérée des zones humides à l'échelle de la planète. En France, c'est exactement la même chose, voire un peu pire. Et malgré ça, on s'apprête à détruire Notre-Dame-des-Landes qui est à 96%, je dis bien 96% une zone humide. C'est-à-dire que ce que disait Nicolas Hulot est fort juste, les terres agricoles, mais en plus de ça, c'est une zone humide merveilleuse. 96% donc de 1700 hectares risquent d'être détruits par cette opération.
Alors on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques lorsque l'on est, on va dire, en face. D'une façon plus générale, Frédéric Denré, parce que vous avez écrit aussi sur ce thème, on l'a dit vraiment de très nombreuses fois depuis un certain nombre d'années, les gens ne comprennent pas dans un pays agricole comme le nôtre que, par exemple, les terres sont quand même l'avenir de demain. C'est-à-dire que notre autonomie aussi aujourd'hui alimentaire, puisqu'on demande de plus en plus maintenant l'agriculture, on demande bien sûr l'alimentation, on demande le maintien des paysages, on demande de l'énergie, mais que ça va être la clé en fait de l'avenir de nos territoires.
Ah bah je ne cesse de dire partout où je parle que la clé de notre avenir sera agricole. Et que si un métier d'avenir, ce sera celui d'agriculteur, d'agri-agronome, d'agro-écologue, enfin de gens qui vont retourner au sol. Et ça, même les agriculteurs en sont en sont conscients, y compris, ça commence à la FNSEA. Il y a un besoin de terres agricoles en France. Il y a le même besoin que dans les autres pays, dans les pays du Sud. Il y a besoin de terres agricoles parce qu'à force de trop la travailler, de lui mettre trop d'intrants chimiques, on a perdu 30% de terres réellement fertiles. La fertilité du sol, c'est des lombriques. Hein, c'est une terre qui n'est pas trop labourée. Et ça, on l'a perdue. Et puis... de façon très pragmatique, les maires en ont marre, la précarité énergétique, les gens habitent trop loin, voilà, tout ça, ça consomme de l'espace. Eh bien, une façon de faire comprendre aux gens qu'il faut redensifier les villes, eh bien, c'est de dire qu'il nous faut de la terre agricole. Et dès lors qu'on préservera les terres agricoles, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au sein des départements et des communautés d'agglomération, dès lors qu'on préservera les terres agricoles, dans le cadre d'un schéma de cohérence territoriale, qui est un document administratif extrêmement intéressant pour envisager l'avenir d'un territoire sur 20 ans, eh bien, on contraindra l'étalement urbain, qui est la principale cause de la plupart de nos désordres écologiques en France. Oui, la terre agricole, c'est sans doute ce qu'il y a de moins renouvelable, contrairement à ce qu'on pense, et ce qu'il y a de plus menacé en France.
On poursuit notre voyage avec vous au sein de l'actualité, de différentes informations et différentes initiatives. Ce sera juste après Laura Cahen, qui chante « Mon loup ». Ah oui, on aime bien les loups, oui.
Je veux te manger, mon loup, te passer à la casserole. Je vais prendre tes jambes à mon cou, te cuisiner me rend folle. Je veux te mariner, mon loup, te griller les moustaches à la poêle. Je vais te faire revenir à feu doux, crois-moi cette recette. Comme sucré salé à mes cheveux d'ange. Je veux te gaver, mon loup, que je te reste en travers. J'y mettrai tous les ingrédients, mon chou, et tu remettras le couvert. Tu
rural, tiens. Voilà un métier d'avenir pour les agriculteurs.
Maman, viens.
La PAC, ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait 40 ans que les petits sont bouffés.
C'est très bien, chérie.
Bientôt, pour élever des vaches, il faudra faire l'école hôtelière.
Allez, on y va.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Voilà, absolument. Donc, toujours en direct avec Fabrice Nicolino. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver avec Frédéric Danhé. Nous décortiquons un petit peu l'actualité et aussi des initiatives positives, on en parlera. On va passer donc à un autre sujet. Remarquez, on a un lien avec Laura Cahen. Mon loup.
Mais oui, le loup.
Voilà.
Bon, moi je suis un grand défenseur du loup. Oui. Je sais très bien que c'est un problème de taille. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien et que les éleveurs auraient tort de se plaindre. Bien sûr, c'est compliqué, mais je le défends parce que c'est un animal magnifique et qu'il est un symbole puissant de la biodiversité. Ce qui se passe en ce moment, c'est que dans le conseil d'administration, c'est presque incroyable, le conseil d'administration du parc national des Cévennes a demandé qu'on puisse tirer le loup au cœur du territoire du parc national des Cévennes. Et c'est vraiment un truc invraisemblable, puisque le cœur, la zone centrale des parcs nationaux en France, c'est le seul endroit
de protection vraiment intégrale
qui assure une protection à tous les animaux, à tous les végétaux. Donc ça, c'est une rupture vraiment dans l'histoire des parcs nationaux qui me paraît sidérante.
Alors c'est pour ça que les parcs nationaux actuellement français sont en crise d'identité. Je comptais monter une émission un petit peu plus tard, mais vous me disiez, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet.
Ah, oui.
On a une nouvelle loi donc, qui est arrivée en 2006 et qui, en gros, donne davantage de puissance aux collectivités locales qui se sentaient, c'est vrai, un peu désemparées parce que les gens n'aiment pas sur le territoire sentir un côté régalien et se dire, on n'est plus chez nous, etc. Bon, donc ici, ils s'y sont faits, mais maintenant, dans les conseils d'administration, ceux qui sont donc les mâles dominants, si j'ose dire, ce sont évidemment les collectivités. Et là, ils reprennent du pouvoir. Et donc, il y a ce souci qu'on peut comprendre, mais quand même d'aménagement. Ça a été très clair, par exemple, sur le parc de la Vanoise, où quand on sait, par exemple, qu'en Tarentaise, vous avez à peu près un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros par an autour du ski, face, si vous voulez, à ce que peut apporter un parc national, ça crée des conflits.
Oui, il se passe quelque chose de grave, vraiment, sans exagération. Le parc national, c'est des merveilles de nature et de protection. Le premier, c'est la Vanoise qui a été créée en 1963. Et là, il y a une remise en cause assez évidente du sens même du parc national de la Vanoise. En deux mots, vous avez raison, il y a la loi Girand de 2006 qui a changé un peu les règles du jeu. Maintenant, les zones qu'on appelait jadis périphériques, c'est-à-dire autour du centre des parcs, c'est des zones qu'on appelle d'adhésion. Il faut que les équipes, les élus municipaux, se réunissent et délibèrent pour parler de l'avenir de ces zones d'adhésion. Et là, ça fait 5 ans que ça bloque au niveau de la Vanoise. Et on voit bien qu'il y a ce qui sort à nouveau, si vous voulez, c'est l'appétit pour les stations de ski, pour les équipements,
les agrandissements, etc.
Le tourisme qui rapporte de l'argent. Et
on pouvait même aller en zone cœur, il le ferait.
Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, mon ami Yves Pacalet, que je salue, qui est un naturaliste bien connu et qui est membre du conseil d'administration du parc de la Vanoise, a lancé un nouvel appel pour la Vanoise. La Vanoise avait été menacée une première fois en 1969. À nouveau, il y a une menace sur la Vanoise. Et Yves Pacalet donc, lance cet appel. Il y a eu une conférence de presse à Paris avec les principales associations de protection de la nature, parce que visiblement, c'est l'ensemble des parcs nationaux qui sont menacés tantôt par des problèmes de financement, des problèmes de moyens. C'est très, très important. Il y a eu des grèves chez les agents des parcs nationaux. Et on voit qu'il y a une sorte de blocage parce que la volonté de protéger la nature, la vraie nature, les animaux, les végétaux et les animaux qui font chier, pardonnez-moi l'expression, mais le loup est un animal qui fait chier, c'est une certitude. Mais néanmoins, et peut-être davantage que d'autres animaux, il faut le protéger parce qu'il est notre avenir. Il n'y a aucun doute possible.
Voilà.
Et donc voilà, je suis extrêmement inquiet, moi, pour l'avenir des parcs nationaux, et je pense qu'il faut se réveiller drôlement si on veut exiger de nos gouvernants que cela change.
Alors, baisse aussi des effectifs, et on l'a bien compris, les RGPP est passé par là également, donc il y aura moins de monde dans les parcs, donc les missions ne seront pas remplies de la même façon. Juste quand même préciser que ça ne passe pas. Alors là, on a un point d'abcès qui est la Vanoise. Je dirais que ça se passe mieux pour avoir pris un peu la température de différents parcs, dans les Pyrénées, dans d'autres parcs, on va dire, dans les Dom-Tom, etc. Bon, mais de toute façon, la règle générale que vous indiquez, elle est là.
Oui, voilà. Regardez l'histoire du parc des Calanques à Marseille. Il y a une sorte de bouillabaisse monstrueuse autour des élus. Et la communauté urbaine de Marseille a décidé de nommer au conseil d'administration du parc un opposant historique au parc. Vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas gagner sur tous les tableaux, ça c'est sûr.
Alors on va rendre hommage à une femme que vous connaissez qui s'appelle Rachel Carson, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le printemps silencieux. Il se trouve qu'hier, l'UNESCO lui a rendu hommage pour les 50 ans de la publication de ce printemps silencieux. J'ai envie de vous lire juste quelques lignes. On va découvrir qui était cette femme. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ah, ils ne venaient plus picorer dans les cours. Les quelques survivants paraissaient moribonds. Ils tremblaient sans pouvoir voler. Ce fut un printemps sans
voix.
Cette femme, elle est née en 1907, elle est morte en 1964 et en 62, elle a écrit cet ouvrage, on va dire, espèce de pierre angulaire là, de la pensée environnementale. Et Réjeanne Hervé, donc vous êtes membre de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, vous avez organisé ce colloque hier. Rappelez-nous qui était Rachel Carson.
En fait, Rachel Carson, une américaine, une biologiste marine, a travaillé de longues années au bureau des pêches aux États-Unis. C'était une femme passionnée, à la fois biologiste et écrivaine. Et il s'est avéré qu'elle est devenue une vulgarisatrice de la science absolument hors pair. Elle a su transmettre son savoir scientifique de manière tout à fait poétique. Et si effectivement Printemps silencieux a été l'ouvrage le plus internationalement connu, le fait est que sa trilogie sur la mer a été son premier travail. Toute sa vocation est venue par son travail sur la mer et sur l'environnement. Elle a pris très vite conscience de la gravité de la pollution chimique. Elle s'en est rendue compte en travaillant en tant que biologiste marine et a donc souhaité, elle ne souhaitait pas elle-même faire cet ouvrage Printemps silencieux, mais elle s'est mise à l'écrire en plus du travail d'éditrice et de chercheuse qu'elle faisait au bureau des pêches aux États-Unis. Elle s'est mise à écrire cet ouvrage qui est vu par beaucoup, notamment par Al Gore d'ailleurs, comme l'acte de naissance du mouvement écologiste.
Cette femme a fait en fait le lien entre l'environnement et la santé. Il faut quand même rappeler qu'en 1962, on ne parlait pas de protection des écosystèmes, que même le mot pollution restait pour la majorité de la population un concept donc était extrêmement abstrait. Elle a secoué quand même beaucoup de monde. On va rappeler que nous étions dans une période complètement industrielle avec les insecticides de synthèse, dont le plus célèbre est le DDT.
Le DDT, dont 10 ans après l'apparition de cet ouvrage à peu près, on a arrêté l'utilisation aux États-Unis. En fait, cet ouvrage a fait un véritable tollé. Elle s'est retrouvée agressée vraiment violemment par l'industrie chimique. Elle a voulu vulgariser la science à une époque où on ne parlait pas de ces choses-là, où on n'informait pas le grand public. Il y avait un contexte économique qui faisait qu'on ne voulait pas stopper l'utilisation de ces produits. Et donc, elle a été violemment attaquée pour cela. Et le fait d'être une femme, parce que c'est un élément crucial dans le travail qu'elle a accompli, et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui un modèle pour bien des femmes scientifiques, c'est qu'elle a été attaquée également parce qu'elle était une femme.
Remettons cela aussi dans le contexte politique de l'époque. Lorsque l'on critiquait ce genre de choses, c'était presque... On arrivait à faire une espèce d'apologie du socialisme et aux États-Unis, socialisme, on n'était pas loin du communisme.
Exactement. Elle a eu tous les handicaps possibles par rapport à la sortie de cet ouvrage, mais qui est considéré comme un des ouvrages les plus marquants du XXe siècle, tout comme elle est considérée comme une des femmes les plus influentes du XXe siècle. À travers le monde, elle est encore génératrice d'un grand nombre de vocations auprès d'étudiants et de chercheurs, d'écologistes, d'ONG. Tout le monde la connaît, en fait, Rachel Carson. Même si ce n'est pas une évidence comme ça, elle est encore très connue et très actuelle. Et elle est d'actualité tout simplement parce que tout ce qu'elle a pu dire s'est vérifié et se vérifie aujourd'hui parce qu'elle était avant toute chose une scientifique hors pair.
En 1962, elle faisait quand même la couverture de Paris Match, elle faisait la couverture de Télé-Séjour. C'était une femme qui était contemporaine du commandant Cousteau.
Oui, absolument. Mais je crois que malheureusement, Rachel Carson, surtout en France, a été moins connue parce qu'elle nous a quittés 2 ans après l'apparition de ce livre. Je pense que ça a fait aussi qu'elle n'a pas été plus connue en France, où la traduction était plus tardive que dans les autres pays. Mais il faut souligner que cet ouvrage est paru a été vendu à 2 millions d'exemplaires et a été traduit en 16 langues, ce qui n'est pas rien.
Elle a permis une influence sur les législations aussi ?
Sur la législation anglaise, ça, on le sait de manière absolue. On sait que son ouvrage a été débattu à la Chambre des Lords pendant un peu plus d'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Elle a été très influente, oui. Elle a permis aussi la création d'organismes d'observation et de protection de l'environnement. Elle a été très influente dans beaucoup de pays nordiques, dans beaucoup de pays d'Europe. Et on a même changé l'appellation pesticide par biocide dans certains pays suite à l'apparition de son ouvrage. En fait, elle a mis en avant le nom bon contrôle des conséquences de l'utilisation d'un pesticide qui ensuite sera ingéré par des oiseaux, etc. Elle est imaginée, quelque chose d'un petit peu fantasque, le moment où les oiseaux ne chanteraient plus.
Alors je vais me tourner vers l'homme qui a écrit « Pesticides, révélations sur un scandale français », Fabrice Nicolino, peut-être réaction aussi.
Bon, j'ai de l'affection vraiment pour cette femme. Je suis vraiment heureux qu'on l'a faite à juste titre aujourd'hui. Non, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui même, aux États-Unis, on essaye encore de discréditer le souvenir de cette femme. Au moment où je vous parle, il y a des actions de lobbying très, très sophistiquées qui visent à détruire la réputation de Rachel Carson et surtout qui visent à réhabiliter le DDT qui est au centre de Printemps silencieux. Parce que, pensent ces gens qui sont très proches des intérêts industriels, si on arrive à disqualifier définitivement Rachel Carson, on va pouvoir s'attaquer enfin au DDT. Et si on peut s'attaquer à la critique du DDT, très certainement les combats menés depuis cette époque-là, notamment contre les perturbateurs, bon, aujourd'hui les perturbateurs endocriniens, mais il y a quelques années les POP, les fameux POP, tous ces combats passés risquent de passer à la trappe, ou en tout cas risquent d'être affaiblis. Rachel Carson reste encore quelqu'un de fondamental pour qui se pense écologiste.
Frédéric Dan, vous avez écrit, vous, les nouvelles pollutions invisibles chez Delachaux et Nestlé, donc évidemment, cette femme vous parle.
Eh bien, évidemment, moi, j'aurais pas pu faire la première édition il y a 6 ans, Les pollutions invisibles, sans avoir lu son livre. Ce livre est fondamental dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de l'écologie, voire dans l'histoire du XXe siècle. Enfin, tout a déjà été dit. C'est elle qui, la première, pour le grand public, dans un langage très, très beau, presque poétique, a mis en évidence l'effet sur le long terme de polluants qui pourtant se trouvent à des doses extrêmement faibles avec donc des effets retard et voilà la perturbation du système hormonal, les polluants organiques persistants, les POP, c'est elle. L'écotoxicologie en tant que science, c'est elle. Voilà, et elle a inspiré beaucoup de gens. Alors, je vais essayer d'être positif sur les États-Unis, c'est aussi la preuve quand même que des États-Unis peuvent sortir ce genre de choses. Je ne crois pas qu'en France, quelqu'un comme Rachel Carson pourrait émerger et avoir un tel succès. C'est quand même une société qui, même s'il y a ce contre-coup aujourd'hui, c'est une société qui favorise quand même une forme de contre-culture. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elle en a subi les conséquences sur place. Tout est parti de là. Et ensuite, toutes les lois environnementales, celles de Nixon notamment, tout est parti de ce livre. Tout est parti de cette contestation qui a été aussi une contestation politique.
Alors, ce que je vous propose maintenant, nous allons partir du côté de la Réunion. Donc, île superbe, 850 000 habitants, me semble-t-il, 2500 km². Mais, Fabrice Nicolino.
D'abord, vous avez raison, c'est une île magnifique, bah oui. Hein, que je connais assez bien et c'est vraiment un endroit merveilleux. C'est un volcan qui plonge dans la mer et il y a très peu de terre plate au bord de l'océan Indien. Alors, les élus locaux, en l'occurrence le conseil régional, je ne sais même pas s'il est de droite ou de gauche, en vérité ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à ce que je vais dire. Non. Ce conseil régional a décidé de promouvoir, et on est très très près du début des travaux, hein, c'est imminent, ça doit être au début 2013, donc a décidé de promouvoir un projet qui me paraît insensé. C'est un projet de route de 12 km de long, écoutez bien, 12 km de long, à peu près, pense-t-on, 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros c'est à la Réunion, mal. C'est colossal. C'est une certitude.
Il a fait en quoi, en platine, en caviar?
Alors, elle est sur la mer, figurez-vous. Oui. On plante des piliers. J'ai vu des maquettes de ce truc-là, c'est hallucinant. On plante des piliers dans l'océan Indien. On fait une route magnifiquement dégagée, gratuite, dit la propagande publicitaire. Et donc, on claque, il n'y a pas d'autre mot, on claque environ 3 milliards d'euros, peut-être davantage. Et que va-t-il se passer? Vous parliez tout à l'heure du dérèglement climatique. On ne sait pas ce qui va se passer sur le plan climatique. L'océan Indien, ce n'est pas une zone très tranquille. Est-ce que cette route à bâtir aura la capacité de se défendre contre d'éventuels typhons? Personne ne le sait très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lobby très puissant qui est un lobby au service de la bagnole, comme d'habitude, et qui veut ce tronçon entre Saint-Denis et La Possession sur 12 km. C'est vraiment hallucinant.
Il n'y avait pas autre chose. C'est-à-dire que
c'est peut-être ça le pire. En fait, ce projet a définitivement enterré un projet sur la Terre, et qui était un projet de tram-train, voilà. Beaucoup plus sympathique aux yeux des écologistes, c'est sûr, même si on peut discuter à l'infini. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette île où 30% des déplacements se faisaient en taxi et en bus il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui c'est 6%. Et l'île est pauvre, c'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, de l'entretenir, de payer l'essence qui coûte cher. Et donc on lance un projet absolument délirant qui va détruire une biodiversité littorale qui est très riche, là au point précis où se trouve le projet de route. On va dépenser un argent qui ne sera plus jamais à la disposition des Réunionnais. Or, il y a quand même 50%, je crois me souvenir, des jeunes de moins de 24 ans qui sont au chômage, figurez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas des projets plus intelligents, plus dignes sur le plan moral et évidemment écologique, que de claquer, je m'excuse d'y revenir, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, de dépenser une telle somme pour un projet de 12 kilomètres.
Et pourtant, cette île a été tout à fait novatrice avec M. Vergès, donc, qui avait été l'ancien président de la région, sur les énergies renouvelables. C'est ça aussi qui est assez étonnant. Frédéric Denis, par rapport à ce sujet.
Oui, effectivement, le plan climat est un des meilleurs qui existe, le plan climat de la Réunion, qui devait aboutir à une indépendance de la production électrique en 2025 en utilisant les ressources renouvelables. Indépendance qui permettait d'assurer à bon compte l'énergisation de ce tram-train. Ce tram-train qui reprenait en gros le trajet emprunté par le train d'avant. Le train qui transportait les ouvriers. Et du coup, parce qu'il transportait les ouvriers, l'État a cassé ça parce qu'il fallait casser cette mainmise d'un syndicat que je ne citerai pas sur les transports et sur la vie économique de l'île. Et le tout voiture est venu pratiquement d'une décision politique. Alors c'est une île que j'adore aussi quand on est au sommet du volcan le matin, qu'on voit le petit matin du monde qui naît sur l'océan Indien, c'est une merveille. Et quand on arrive sur ce boulevard périphérique invraisemblable avec les voitures qui sont les unes derrière les autres, c'est invraisemblable. Donc ce projet, je vous donne juste deux chiffres. Il y a 40% de pauvres à La Réunion, il y a 30% de personnes qui n'ont pas de voiture. Voilà. Qu'est-ce que vont faire ces gens-là sur une route qui est donc construite sur une zone sismique, sur une zone volcanique, sur une zone cyclonique avec la mer qui monte? Et donc, pour juste terminer, ce projet n'a pas de sens. N'a pas de sens parce que il y a même pas les entrées de ville qui vont être rénovées
pour les gens qui le bâtissent, bien sûr que c'est ça.
Et oui. Dernière chose, la région avait bien signé un contrat en bonne et due forme pour que le tram-train se fasse. Le contrat a été dénoncé, il y a un dédit. J'annonce aux Réunionnais que ce dédit, il y a une plainte qui est en cours au tribunal d'instance de Saint-Denis, tribunal administratif, un dédit qui pourrait se monter à 200 millions d'euros. Voilà. La région va peut-être payer pour rien.
Amis Réunionnais qui nous écoutez avec 3 heures de décalage, eh bien, vous en savez un petit peu plus. Mais enfin, je pense que vous êtes à peu près informés. On va poursuivre ce voyage et ben, tenez, on va avoir des bonnes nouvelles après du côté des transports après Neil Young. Toujours sur France Inter. With the devil on
the dead on the radio. That old time music used to soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. 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 Let the good times roll.
Dis-moi, mon chéri, ou bien c'est ta voiture de beauf qui consomme 10 litres au 100 en ville, ou c'est moi. Je t'offrirai une auto à pédale pour Noël pour t'amuser et un abonnement à CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Et voilà, alors nous avons eu reçu, alors ça c'est au fil des semaines si vous voulez, pas mal d'entre vous qui nous disaient est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe en matière de transport, transport alternatif, transport en commun. En fait nous fêtons en plus aujourd'hui l'ouverture du nouveau tronçon donc à Paris du tramway qui est prolongé donc jusqu'à la porte de la Chapelle, puis après ça va continuer. Je sais que du côté du 16e arrondissement ils n'en veulent pas, hein. C'est surprenant, mais enfin bon voilà, je pense que ça va donner plus tard, mais enfin, en tout cas l'idée c'est de faire le tour de Paris, et puis donc on a le tramway de la Défense jusqu'à Beson, la ligne 4 qui va jusqu'à Montrouge, de la Seine-Saint-Denis à Asnières, donc là aussi ça bouge bien. C'est intéressant, ça relève évidemment beaucoup des collectivités, ça Frédéric Danoué. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui d'intéressant comme idée qui va aider nos concitoyens?
Alors ce que l'on voit émerger, qui est d'ailleurs une obligation liée au Grenail, hein, dans les plans de déplacement urbain que sont obligés de faire les communes de plus de 50 000 habitants, c'est que le tout voiture est fini, c'est-à-dire qu'on ne privilégie plus la voiture, ça c'est terminé. On privilégie ce qu'on appelle les TCSP, les transports en commun en site propre, que ce soit des bus à haut niveau de service, comme il y en a en Seine-Saint-Denis, ou le tramway par exemple. Et il n'y a plus une commune, il n'y a plus une agglo qui ne mette pas ça en avant, qui ne mette pas en avant les pistes cyclables, les modes doux, ce qu'on appelle la multimodalité. Alors les communes qui ont été moteurs là-dedans, on les connaît, hein, c'est La Rochelle, c'est Strasbourg ou Chambéry, qui était la première avec le maire Besson à lancer une politique vélo. Strasbourg qui passe à l'étape supérieure. Il y a cette ville est bardée de prix, il y a des tramways partout, tout le monde marche à pied et on va encore plus loin. Et le maire a annoncé qu'il fallait passer du tout tramway à autre chose, à des bus en site propre, à d'autres façons de fonctionner.
On va citer Nantes aussi, hein, là, qui est un bel exemple.
Voilà. Exactement, de réflexion intégrée.
Parce qu'il y a Notre-Dame-des-Landes à côté.
Non, Jean-Marc Ayron n'a pas fait que des bêtises. On ne sait plus ce qu'il fait. Mais bon, là en tout cas, Nantes, il n'y a rien à dire. Non, il y a plein d'initiatives, même Nice. Enfin, Nice, c'est une ville qui est en train d'arrêter le tout voiture, qui embête les automobilistes. Donc il y a ce tramway, il y en aura un deuxième bientôt, il y a les vélos bleus, il y a des autolibres qui ne portent pas ce nom-là. L'affaire est lancée. Même à Nice, où on a un taux de motorisation qui est extraordinaire, on a des embouteillages partout, la circulation automobile est en train de baisser à mesure que, grâce au ticket à 1 euro et un abonnement qui ne coûte pas très cher pour les bus, à mesure que le transport en bus, par bus, dans les Alpes-Maritimes a augmenté de 40% depuis qu'on a mis les tickets. 1 euro.
Ça, c'était une politique volontaire de Christian Estrosi, il faut le dire.
Estrosi, et ensuite Ciotti, a essayé de faire la même chose.
Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que lorsqu'on achète un ticket, combien, on va dire, paye le particulier et après, comment c'est financé ? De manière générale, sur les transports.
Les politiques de transport sont financées à 20% par le ticket, à 40% par les pouvoirs publics et à 40%, parce que personne ne connaît, la redevance transport qui est versée par toutes les entreprises. Et qui n'est pas un taux très élevé, donc on peut continuer à augmenter. Donc le budget transport en commun peut continuer à augmenter sans que ça entraîne beaucoup de problèmes. Un autre exemple, Montpellier. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment à Montpellier. Montpellier est une des rares villes au monde, peut-être même la seule en Europe, où toutes les lignes de tramway arrivent devant la gare. Ça répond à une volonté de Georges Frêche, qui voulait qu'il n'y ait pas plus d'une correspondance entre le tram, entre le tramway et le train. Si bien que finalement, vous n'avez plus aucun intérêt, aucune raison de prendre une voiture ou un taxi depuis la gare de Montpellier. Qu'est-ce que je peux vous...
Les transports gratuits.
C'est en train de monter. Les transports gratuits ou pas chers se posent la question du financement quand même. Il y a un vrai débat au sein des autorités responsables des transports. Se pose un vrai débat qui est un débat presque philosophique. Est-ce qu'on peut tout offrir? Est-ce que la gratuité, on peut se la permettre? Est-ce qu'on va respecter un transport en commun parce qu'il est gratuit? Est-ce que tout simplement, parce c'est un peu comme pour la culture, est-ce que le problème de l'accès au transport en commun, c'est un problème financier ou un problème de culture du transport en commun? Et ça, on le voit partout. On s'aperçoit dans beaucoup de communes se sont aperçues, comme Soissons, comme Angers par exemple, que si les gens, nous tous, n'utilisent pas les transports en commun, souvent, Même, il y a une étude qui a été faite par la RATP dans le 16e qui a montré que si on ne monte pas dans un transport en commun, souvent c'est parce qu'on ne comprend pas la signalétique. Et oui, on ne comprend pas les plans de bus, c'était le cas à Angers. On ne comprend pas la billettique. C'est trop complexe pour, et parfois même c'est la typographie qui rebute les gens. Il suffit de voir les gens perdus dans les gares aujourd'hui qui ne savent pas où aller et qui ne savent pas comment acheter un ticket. Donc le grand mouvement là, en plus de faire de l'infrastructure, c'est de faire de la culture du transport, ce qui s'appelle la mobilité.
Et alors on a vu par exemple en Champagne-Ardenne et aussi dans l'Oise, cette fois-ci une approche différente et assez intelligente alors du calcul de ces itinéraires. Donc là on met le net dans le coût, hein, donc là c'est vraiment le réseau et ça a l'air de bien fonctionner, de bien prendre.
Il y a Grenoble aussi, le signe vitici.fr, vous tapez Champagne-Ardenne, vous mettez votre itinéraire, vous mettez votre ville de départ, votre ville d'arrivée, il vous trouve l'itinéraire sous quelque forme de transport que ce soit.
Ah, c'est ça.
Que ce soit covoiturage, autopartage, taxi, bus, il n'y a pas de tram, j'allais dire tram, train, etc. Le meilleur exemple, c'est l'Oise, avec le système intégré de services à la mobilité qui s'appelle le SISMO, qui a été primé partout dans le monde, y compris à Dubaï récemment. L'Union internationale du transport public lui a remis un prix qui est important. C'est, vous avez votre smartphone, votre ordinateur, vous avez accès à l'information en temps réel, on vous propose une solution et une solution tarifaire en temps réel. Et c'est ça qui est essentiel pour montrer que les transports en commun, c'est partout. Et à Grenoble, on va même plus loin que ça, on a créé une maison des mobilités où en un seul lieu, tous les opérateurs de transport en commun sont réunis, sont là pour vous aider à bricoler votre itinéraire, votre carte d'abonnement, le meilleur tarif. Voilà. Le mouvement d'ensemble, c'est ça, c'est de créer une culture du transport en commun. Et c'est que toutes les autorités organisatrices des transports, celles qui gèrent les bus, les tramways à l'échelle d'une agglomération,
se mutualisent,
c'est le cas dans l'Hérault par exemple, ce qui explique cela à Montpellier, sous forme de syndicats mixtes des transports, c'est-à-dire on mutualise les moyens et on évite ce qu'on appelle les ruptures de charge entre deux lignes de bus qui ont du mal à se chevaucher.
En ce qui concerne les livraisons en ville, les entreprises ont bien compris que si elles ne faisaient rien elles-mêmes, elles allaient avoir de plus en plus de problèmes pour livrer.
Derrière, c'est le problème du diesel. Avec Euro 6, avec les schémas régionaux climat, air, énergie, de toute façon, les camions, comme les voitures des particuliers, ne pourront bientôt plus accéder au centre-ville. Et derrière les normes Euro 6 et le schéma, le SRCE dont je viens de vous parler, il y a aussi une réduction obligatoire du bruit. Et donc, il y a beaucoup de maires, comme à Paris, qui entravent la livraison de marchandises dans les commerces en ville, alors que l'on veut promouvoir les commerces en ville. Et donc, les professionnels se sont réunis, ont créé une association qui s'appelle Certibruit et qui fait l'expérimentation, à la fois matérielle, des camions hybrides, des petites camionnettes électriques, avec des, c'est le cas là, rue de Rennes à Paris par exemple, des espèces d'hôtels logistiques où on livre la nuit ces hôtels, et à partir de là, hein, ces parkings plein de colis, et à partir de là, on livre en toute petite camionnette électrique les magasins, ça vient des professionnels, les expérimentations sont en cours à Paris, à Orléans et je ne sais plus où, Lyon, avec des enseignes que je ne vais pas citer. Mais voilà, les choses bougent.
Mais oui, c'est pour ça que c'est intéressant, il n'y a pas que des coups de gueule dans cette émission, loin de là. Alors comme vous savez que c'est une émission qui parle de nature, d'environnement, que là on a eu un son un peu urbain, on l'a bien compris, eh bien on va partir dans une délicieuse commune, on va aller à côté de Moissac. Alors Moissac c'est très beau, c'est une ancienne abbaye sur la rive droite du Tarn, nous sommes dans le Tarn et Garonne, et tenez. Pour vous présenter le décor, un viticulteur, Jean-Jacques Bijard.
Alors d'ici, on domine la vallée de la Garonne, où on voit de Castelsarrasin jusqu'après Valence d'Agen. On domine la plaine avec ses vergers. Et si on se tourne, nous avons sur les coteaux versant sud, les vignes de Chasselas de Moissac, qui s'étendent un peu de façon éparse dans le paysage.
Voilà, respirer, donc vous l'avez compris, le Tarn n'est pas loin. Nous sommes avec Jean-Jacques Bijard, donc à côté de Bondoux. Donc on est quelques kilomètres de Moissac, 500 hectares de chasselas. Donc ce grain délicieux, ce raisin de table couleur nacrée, légèrement doré, très sucré, qui est extrêmement fin. Et avec Gilles Adjier qui s'occupe de l'association Chasselas sur Moissac, et bien, vous allez comprendre que là aussi, ce sont des petits gestes, ce sont des petites choses, mais quand même, un tiers maintenant des viticulteurs s'y sont mis, vous allez comprendre ce que l'on fait pour éviter un peu de chimie.
C'est une production très traditionnelle, mais qui demande beaucoup de soins et très peu de défauts. Alors, toutes ces petites bêtes qui nous gênent vraiment dans la culture du chasselas, eh bien, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on travaille sur ce qu'on appelle la lutte raisonnée. Et depuis peu, effectivement, on a développé des moyens de lutte plus biologiques avec l'aide de lâcher, notamment d'une petite mouche qui s'appelle le Néodrinus pour combattre donc une cicadelle qui est une cigadelle envahissante qui s'appelle le Metcalfa prunosa, qui est donc une cicadelle qui nous a été amenée par l'Italie via au départ les USA. Et donc c'est un parasite qui est présent depuis une dizaine d'années à Moissac et très invasif et donc qui touche à la fois les jardiniers amateurs comme les chasselatiers.
Donc, les conséquences, qu'est-ce que c'est sur le raisin?
Alors sur le raisin, malheureusement, ces cicadelles donc provoquent un miela et donc un coton également que font les larves autour d'elles, qui déprécient énormément notre qualité à hausser de chasse-là.
Alors soit on balançait peut-être le produit chimique, on va dire, qui allait bien, et vous avez dit non, c'est pas du tout ce que l'on souhaite sur notre AOC, donc on va faire travailler la nature intelligemment et on va essayer de trouver le prédateur naturel.
Absolument, donc Jean-Jacques s'est intéressé à ce sujet avec moi et donc on a contacté un organisme local qui s'appelle la FREDEC à Toulouse et donc grâce à l'appui de la mairie de Moissac, donc on a pu installer des nids de cet auxiliaire qui s'appelle donc le Neodrinus typhlosibae qui pond un œuf dans la larve du Metcalfa qui est notre parasite.
Et alors, voilà. Après ça fonctionne bien, donc les résultats sont bons là?
Oui, les résultats ne sont pas meilleurs qu'une lutte chimique, parce qu'une lutte chimique permet de maîtriser de façon très satisfaisante ce parasite. Quand on peut avoir des méthodes alternatives, et on est bien content de les prendre. Et là, actuellement, on a eu la chance, et il faut remercier la mairie de Moissac, d'être à nos côtés pour implanter des nids de Neodrinus, et qui, à moyen terme, bon, il faut être patient, mais à moyen terme, nous aurons d'excellents résultats.
Alors ça veut dire qu'en fait on passe beaucoup moins de produits aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que c'est le gain de ce côté-là d'un point de vue écologique?
Alors le gain il est surtout donc, sur les pesticides qui est la partie importante des pesticides et la plus nocive sont les insecticides. Donc effectivement comme vient de dire Jean-Jacques, on peut très bien faire facilement 1, 2, 3 insecticides de plus. Mais on est déjà sur cette piste de la lutte raisonnée et c'est vraiment cet insecte, donc cette mouche peut nous aider à résoudre au moins une partie des problèmes.
Alors cette lutte biologique, en fait, elle peut être valable aussi pour d'autres prédateurs de la vigne.
Mais effectivement, il y a d'autres auxiliaires que nous suivons de près, hein, qui pour nous sont très importants. Hein, donc on a des punaises prédatrices, on a des coccinelles, on a des syrphes, on a des chrysopes, on a tout un tas d'auxiliaires que nous surveillons de près. On développe d'ailleurs aussi une lutte par confusion sexuelle du ver de la grappe, qui est un autre parasite de la vigne, avec beaucoup de succès cette année. En implantant de la confusion sexuelle des Neodrinus dont on vient de parler, on peut espérer diminuer cette pression insecticide que nous demandent les consommateurs.
Et vive le Neodrinus, voilà, du côté de Chasselas. Donc je vous le disais, maintenant c'est un tiers hein, des viticulteurs, des producteurs qui s'occupent de cela, qui travaillent de cette manière-là. Une fois de plus, on est dans cette logique qu'on a depuis des années avec Jean-Marie Pelt, avec plein de gens dans CO2 Mon Amour, c'est de faire avec la nature, de faire bosser la nature et de ne pas donc, aller contre. Alors, je ne sais pas si on va faire avec ou si on va aller contre avec vous, Fabrice Nicolino, parce qu'on va partir au Mexique. Racontez-nous, Mexique égale berceau du maïs.
Oui, c'est ça. Enfin, d'abord un hommage très rapide à un russe, un botaniste génial que connaît bien Jean-Marie Pelt, qui s'appelle Nikolaï Vavilov. Vavilov est mort au Goulag en 1943. Mais avant cela, il s'était baladé dans le monde entier et il avait découvert ce qu'on n'appelait pas encore les hotspots, c'est-à-dire des centres d'origine de la biodiversité alimentaire. Il avait été absolument partout dans le monde et au Mexique, dans la Sierra Madre, il avait découvert finalement le lieu d'origine du maïs, qui est une plante magique et une plante essentielle à l'équilibre alimentaire des humains. Et donc je pense à Vavilov parce qu'il se passe quelque chose actuellement au Mexique qui est sidérant. C'est une très grave menace. Il y a une association qui s'appelle Grain en français, Grain, qui est une association admirable, qui lance un appel vraiment au monde entier parce que le gouvernement mexicain serait sur le point de vendre, il n'y a pas d'autre mot, 2,4 millions d'hectares du Mexique à de grandes entreprises de l'agrochimie, Monsanto, Dow Chemical, qui était Dow Chemical, et DuPont, un grand chimiste, un grand agrochimiste américain. Donc, le gouvernement mexicain s'apprêterait à vendre cette surface géante. Je rappelle que 2,4, je précise que 2,4 millions d'hectares, c'est davantage que la totalité de la surface d'un pays comme le Salvador, qui est un pays de la région. Donc, c'est une surface géante vendue à l'agrochimie pour y planter du maïs transgénique. Et ce que dit Grain, c'est que c'est que si ce crime, parce que l'association parle de crime contre le maïs et contre les hommes, et moi je suis tout à fait d'accord avec elle, je pense qu'il s'agirait d'un crime vraiment mondial, planétaire. Si ce maïs transgénique venait à être planté au Mexique, où il existe encore aujourd'hui un moratoire qui interdit la dissémination du maïs transgénique, si ce maïs transgénique est planté a fortiori à une échelle pareille, c'en est fini du maïs originel, je dirais, le théosinte qui est l'ancêtre sauvage du maïs, toutes ces plantes absolument extraordinaires et fondamentales pour l'humanité seraient contaminées à tout jamais par ce maïs transgénique. On se doute bien qu'il y a des échanges autres que de sous la forme de poignées de main entre l'agrochimie et le gouvernement mexicain. L'ancien président qui vient de laisser sa place avait eu, on le sait, c'est tout à fait clair et net, avait eu des échanges très amicaux, je dirais, avec le président de Monsanto. On est en face de quelque chose de très grave.
Alors Frédéric Dan, et pas forcément sur ce registre, mais on reste dans le domaine agricole. On va peut-être revenir en France et voir des évolutions très intéressantes de la part, on va dire, d'agriculteurs qui sont conventionnels.
Il y a des frémissements partout. J'étais aux deuxièmes rencontres sur les zones humides à Auch, organisées par la DASEA. Et j'ai rencontré... Il y a plein d'agriculteurs qui montraient que leur métier était en train d'évoluer parce qu'ils avaient envie qu'il évolue. Et Régis Bordenave, qui est à Eos, qui est un maïsiculteur, qui fait du blé et qui, dès 89, s'est mis à faire du semi-direct, à faire du, si ce n'est du pas de labour du tout, du moins labour et moins profond pour respecter les équilibres dans le sol, pour respecter les lombrics, pour respecter la fertilité naturelle du sol. Donc c'est un céréaliculteur, il est membre de la FNSEA, donc on pourrait croire qu'il va faire l'agriculture intensive. Et depuis 1989, il en fait de moins en moins. Donc son blé le plante en semi-direct, c'est-à-dire qu'on fissure juste le sol et ensuite on pose la graine, on referme et c'est terminé. Pendant quelques années, c'est un peu difficile, les premières années, m'a-t-il dit, parce que dans la mesure où on ne laboure pas, pour faire très très court, l'azote qui est dans le sol est moins disponible, donc il faut mettre un peu d'engrais. Et puis au départ, parce qu'on ne laboure pas, les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices arrivent. Mais au final, il est très content parce qu'il fait une économie de 50% de carburant. Parce que ces sols sont à peu près les mêmes partout, il n'y a plus cette érosion hydrique, ce ruissellement qui est lié au fait qu'en hiver, vous savez, les sols sont nus, les sols sont tassés par la pluie et la pluie rigole dessus.
C'est pour ça que les rivières sont boueuses, quoi. Elles sont toutes marron.
Exactement, et qu'un sol bien labouré en hiver se comporte vis-à-vis de l'eau comme un macadam de supermarché. Et au final, comme il m'a dit, il voudrait ne plus voir de concours de labour dans le Gers, il préférait avoir des festivals de non-labour et...
On va faire jazz à Marciac et non-labour en même temps.
À Marciac, oui, et il va même voir les agriculteurs bio pour voir ce qu'ils font, pour s'inspirer de... Enfin là, moi, ça me réjouit, comme il m'a dit, je suis à la FNSEA, les mouches, un jour, vont changer d'âne. C'est pas beau, ça?
C'est pas mal, dicton presque local. Voilà. Nous terminons aussi avec une nouvelle positive en Seine-Saint-Denis, Fabrice Nicolino.
Oui, alors c'est vraiment un coup de cœur pour moi très important. J'ai découvert, je veux dire, la découverte avait été faite par d'autres, mais j'ai découvert un lieu que je trouve magnifique en Seine-Saint-Denis. Il faut le dire, la Seine-Saint-Denis, tout le monde le sait, c'est le 9-3. C'est un lieu où j'ai très longtemps habité et donc c'est un lieu que je connais bien. Ça se passe entre Pantin, Noisy-le-Sec et Romainville. Donc c'est une zone qui a été martyrisée par l'industrie lourde et puis par l'urbanisme passablement délirant des quelques décennies passées. Et il existe là d'anciennes carrières de gypse qui ont été abandonnées, qui ont été laissées, dont l'exploitation s'est terminée il y a environ 50 ans, peut-être 60 ans, peu importe d'ailleurs, a poussé sur les ruines de ces carrières de gypse une forêt spontanée. Et le tout est enclos, il y a des risques d'effondrement liés à la présence des carrières, donc c'est relativement dangereux, dit-on. Et en tout cas, on n'a pas le droit d'y pénétrer. Je dois dire que j'ai commis un acte illégal, puisque j'y suis allé quand même. Voilà, et c'est très beau. Enfin, c'est pas très, très beau, c'est splendide, c'est extraordinaire. Il y a des atmosphères de forêt tropicale là-dedans. Il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux. On voit par exemple, imaginez au-dessus de Pantin et Noisy-le-Sec, on voit des bus variables dans le ciel. Il y a très certainement du renard, du blaireau. En tout cas, il y a énormément de
papillons. Des chauves-souris aussi.
Des chauves-souris, oui, il y a vraiment une richesse, une biodiversité tout à fait considérable. Le point pas noir. Le point d'interrogation, c'est de savoir ce que va devenir ce territoire, parce qu'il y a un projet très ancien de base de loisirs. J'espère de toutes mes forces et j'essaie de réunir
du ludique, vous le savez. Comment ? Il faut amuser, il faut amuser les gens. C'est ludique, c'est important.
Mais moi, je pense qu'on pourrait en faire un lieu extraordinaire dont on parlerait dans toute l'Europe. Je sais que ça paraît exagéré, mais on pourrait imaginer, par exemple, un observatoire de la biodiversité, un observatoire populaire de la biodiversité. Et je le dis. Peut-être que vous me laisserez le dire. Je dis que j'essaie de rassembler quelques forces pour aller dans cette direction-là. Et ceux qui seraient intéressés éventuellement en Seine-Saint-Denis peuvent peut-être envoyer des mails à l'émission. Et je suis sûr que Denis Chessou se fera le plaisir de me transmettre. Donc n'hésitez pas.
Je suis un très bon petit
facteur. Si vous voulez essayer de trouver une belle issue pour ce lieu qui s'appelle la Corniche des Forts, 40 hectares d'une forêt splendide.
Vous écrivez assez haut de mon amour, ce sera parfait. Je voulais souhaiter aussi, vous voyez, avec ces sons joyeux, les 40 ans de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, en Isère, entre autres. C'est leurs 40 ans, ils ont toujours fait un boulot formidable. J'étais à Grenoble avec eux, là, il y a deux jours, et vraiment, merci pour tout le travail, tous ces bénévoles. Merci à Philippe Buclot et Yann Bouillot, ils n'étaient pas bénévoles. Stéphane Combe, notre assistant, Christophe Imbert, notre réalisateur, Jean-Baptiste Audibert qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui a nourri les sites, et puis la semaine prochaine, il y aura Binet, les Bidochons, mais oui, ça s'intéresse à l'environnement.
Très bien.
Oh, très bien, Binet, voilà. Il y aura Frédéric Lenoir pour La Guérison du Monde, il y aura Jean-Marie Pelt, il y aura aussi une femme qui écrit un bouquin que j'aime beaucoup, Quand la nature inspire les peintres, autrement dit, le 22 décembre, plein de livres sur la table de CO2 Mon Amour. On est déjà en retard, me semble-t-il, oui.
CO2 Mon Amour, avec Okofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique.